Alors c'est parti. Alors c'est parti. Parashat Beshalach. Alors la Parashat Beshalach doit venir répondre à une grande question. À une grande, grande, grande question qui est la cohérence du personnage. De quoi parlons-nous ? Dans les Parashat de Vaera et Bo, ce sont les Parashat des 10 plaies. Alors cette année, on a parlé des 10 plaies par rapport aux 10 commandements. Mais on avait évoqué, très certainement, les 10 plaies comme étant les arguments, les différents arguments de Pharaon, pourquoi le peuple juif devait rester en Égypte, et quels étaient les différents arguments de Moshe pour dire « Non, on doit partir ». Et finalement, à la fin du film, eh bien, Pharaon a accepté les arguments de Moshe. Comment je sais que Pharaon a accepté les arguments de Moshe et qu'il est d'accord que le peuple juif sorte d'Égypte?
Ils
sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire qu'il nous a laissé sortir. Non, je vais aller plus loin. Parce que je n'accepte pas l'idée que Pharaon nous a laissé partir parce qu'il n'en pouvait plus. Non. De quoi?
De les avoir laissés partir.
Ah, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, je vais me concentrer de... Il les a laissés partir. Et s'il les a laissés partir, ce n'est pas parce que... ça y est, la 10e plaie était trop dure, il n'en pouvait plus. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il sait, Pharaon, qu'il n'a rien à craindre d'une 11e plaie. Il n'y aura pas de 11e plaie, il le sait. Comment il le sait? Bien, avant même de commencer la première plaie, Moshe lui a transmis les paroles de Dieu, qui lui a dit, je cite, « Lève le paro, et dis-lui, « Shlach et ami veya avduni, laisse partir mon peuple qu'il me serve, veimaen ata le shaleach, et si tu refuses de les laisser partir, iné anochi oreg et bincha bechorecha. » C'est-à-dire que même avant qu'on commence les 10 plaies, Dieu a fait passer le message par Moshe à Pharaon que soit tu les laisses partir, soit ça arrivera jusqu'à Makat Bechorot. Ah bon, bah. Donc c'est arrivé jusqu'à Makat Bechorot. Il n'y a plus rien à craindre.
Comment vous comprenez que c'est jusqu'à?
Iné anori orei et bincha bechorecha. C'est-à-dire que ça peut être le début. Sauf que le fait est que Dieu lui a dit, si tu ne les laisses pas partir, la finalité de si tu ne les laisses pas partir, c'est anori orei et bincha bechorecha. C'est-à-dire qu'il aurait pu dire, il y a les sauterelles, il y a le truc, il y a le truc, il y a le truc.
Il n'a pas annoncé les autres.
Il n'a pas annoncé les autres. Mais donc ça veut dire que la plus importante, c'est celle qui vient être, celle qu'on annonce, c'est celle qui est la plus importante.
C'est là, ça peut être le début des plus importantes.
Ouais, j'ai passé 10 quand même. Ça y est. Okay. Et je vais aller plus loin. Non seulement ça, mais finalement, bah, il demande à la fin du film, avant de nous laisser partir, il dit, ok, vous pouvez partir. Lechu ka'asher dibartem ou berartem gam oti. C'est-à-dire que finalement, non seulement il les laisse partir, mais il voit en eux une source de bénédiction. Donc ça veut dire qu'il a été convaincu que c'est bel et bien Israël qui représente Akadosh Baruch Hu sur terre, et non plus lui. Et donc il nous laisse partir. Et donc s'il nous laisse partir, bah, on est en droit tout largement de se poser la question pourquoi il va faire volte-face 3 jours plus tard. C'est-à-dire, on va voir. Mais avant de voir les raisons de Pharaon, je m'inquiète un petit peu de c'est qui ce peuple juif qui sort. C'est qui ce Am Israël? De quoi est-il composé? D'abord, on sait qu'il est composé des 20% meilleurs. Ah oui, puisque les 80 autres pourcents ont décidé de rester en Égypte. Donc les 20% qui sortent, c'est déjà des tzadikim. Quand on va voir à quoi ressemblent ces 20%, c'est que les 80 autres, c'était vraiment, vraiment pas joyeux. Ok? Alors, quels sont ces 80%? Le début de la paracha nous dit la chose suivante. Regardez la source numéro 5. Vaï beshalach paro et ta'am. D'ailleurs, je vais lire les versets de la source numéro 5. Dites-moi si vous trouvez un mot qui revient. quand on lit désert, ça fait penser Torah. Et donc, il s'agit ici, je vous dis, comme la Torah Tmina nous dit, que pourquoi est-ce que la Torah a été donnée dans le désert ? Parce que pour recevoir la Torah, il faut se faire un petit peu désert. C'est-à-dire, il faut se faire efker, ne pas être tout plein de choses pour pouvoir justement laisser rentrer la Torah. Donc, quand on lit Torah, quand on lit désert, c'est vrai, ça nous fait penser Torah. En d'autres termes, c'est quoi cette troisième partie qui voulait passer par le désert ? C'est ça, c'est une partie qui, si ça passe pas par la Torah, moi je sors pas d'exil. Faire son alia ? Ah oui, mais attention, il faut faire très attention. Parce que si tu savais le nombre de gens qui ont fait leur alia et qui ont chuté spirituellement. Ah oui, non, mais c'est important. Ah, mais attends, en France, il allait à des cours, il était dans la communauté, il était bien, il venait à la synagogue. Là maintenant, il est parti en Israël, plus de cours, plus à la synagogue. Moi, je dis, si c'est pour ça, faire son alia, je dis non. Qu'est-ce qu'il faut répondre à cela ? Hein ?
C'est pas compatible.
C'est-à-dire ?
On peut faire l'alia et aussi continuer...
D'abord, on peut être normal. D'abord, on peut être normal. C'est-à-dire que quand on me demande, qu'est-ce qui vaut mieux ? Être froum. Donc, t'as déjà compris, quand il y a des mots comme ça où tu sais d'où ça vient. Il dit, est-ce qu'il vaut mieux être froum en Chutz la'aretz ou manger des grillades à Kippour à Tel Aviv ? Réponse. Est-ce qu'on peut pas être normal ? Est-ce qu'on peut pas être froum à Tel Aviv ? Maintenant, et voilà, quand les gens ils te disent ça, machin, c'est de sa faute. Bon, chacun a le libre arbitre. Il a décidé de venir en Israël et de chuter, bah, tant pis pour lui. Faut laisser la responsabilité à chacun. Là, ces gens-là, ils disent, moi, je viens que si c'est religieux. Ça, ce sont les trois parties. Je me suis fait chasser. Je veux bien, mais que ce soit facile. Et que si c'est religieux. Il y a une quatrième partie qui n'est pas appelée... Pardon ? Voilà, il y a une quatrième partie qui n'est pas appelée à Am, mais qui est appelée Béné Israël. C'est la suite du verset. Veyechamushim alou Béné Israël me Eretz Mitzray. C'est qui ces gens-là ? C'est les gens qui sont sortis armés. Hein ? Les quoi ?
Les normaux.
Ah, les normaux. Non, pas encore les normaux. Pas encore les normaux. C'est ceux qui sont sortis armés. Ils sont prêts à faire la guerre contre les Égyptiens.
Armés ou cinquième, ça dépend de...
Non, c'est gamme armée, c'est gamme en cinquième. Rachid dit, « En chamushim, ella mezuyanim. » C'est quand il y a marqué chamushim, ça veut dire armée. « Davar acher, nous dit Rachid, « echad mi chamesh. » Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
On garde les deux.
Ben oui, toujours on garde les deux dans Rachid. C'est à chaque fois que... Apprends un grand principe dans Rachid. Dès que Rachid te dit « davar acher » de quelque chose, c'est... une autre face de la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ça veut dire qu'ils sont sortis armés. Combien du peuple est sorti armé ? Un cinquième. Ok ? Achat. Ça, c'est la quatrième partie. Vous serez d'accord avec moi, j'espère, que l'appellation Béné Israël est quand même un peu plus positive que l'appellation Aham. Donc, on peut voir déjà que la Torah préfère un des quatre groupes. Moi, je dis ça. Hein, je dis rien, Béné Israël. Alors ça, ce sont les quatre groupes qui forment la sortie d'Égypte. Vous allez voir qu'il y en a un cinquième. Car s'il y en a quatre, il y en a forcément cinq. Eh oui, dans le judaïsme, à chaque fois qu'il y a quatre, en fait, il y a cinq.
Oui, c'est vrai.
Eh oui. Par exemple, à Pessah, il y a plein de quatre. Tous les quatre de Pessah, ils sont cinq.
Du coup,
ben, il y en a combien en vrai ?
Quatre.
Il y en a cinq.
Sacre Shonot.
Il y a combien de termes de délivrance cinq. En vrai, il y en a cinq. Voilà. Il y a lequel, on connaît les quatre qui sont marqués dans la Haggadah, mais il y a le dernier qui est toujours marqué dans le verset, qui dit « Je vous amènerai en terre d'Israël, ve'eveti etchem el haaretz ». Il n'y a pas quatre enfants, mais il y a cinq enfants. Il y a celui qui n'est pas à la table du Seder. Qu'est-ce qu'on a encore ? Il y a marqué quatre fois « Baruch » dans « Baruch Hamakom Baruchu ». Et il y a une cinquième fois à la fin du Seder, on dit Baruch Haba. Ok ? Donc à chaque fois qu'il y a quatre, il y a cinq. Ce que nous explique le Maharal, c'est que dès que tu mets quatre points dans une feuille, eh bien tu pourras forcément dévoiler le cinquième. Le cinquième. Le cinquième. Ah, C'est-à-dire que tu prends une feuille, tu mets 4 points, tu les relis entre eux dans tous les sens possibles et imaginables, et donc tu vas dévoiler un cinquième. Ce qui veut dire que 4, c'est 5. Et donc, il y a forcément un cinquième groupe qui est sorti également. Pour l'instant, on va laisser en stand-by ce groupe-là. On sait qu'il va arriver, mais on va laisser en stand-by. Et à ce moment-là, 3 jours ont passé, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Et Pharaon se dit, maintenant, je vais les poursuivre. On a posé la question tout à l'heure de la cohérence du personnage. Parce que s'il les a laissés partir et qu'il a été convaincu de la véracité de leur départ, que c'est bien qu'ils partent, qu'ils sont ceux qui représentent Dieu, qu'ils sont la source de bénédiction, pourquoi décide-t-il de poursuivre les Bnei Israël 3 jours plus tard? Et ne me dites pas qu'il n'avait plus de linge et que c'était le moment où il s'est dit « Mais il est où, mon esclave machine à laver ?» Non, c'est un peu trop facile.
Il a cru que Dieu les avait abandonnés.
Pourquoi ? Nevochim en Bamidbar.
Parce qu'ils sont passés par
le parce qu'ils sont dans le désert et qu'on dit qu'ils sont paumés, machin. Nachon, mais il faut le comprendre autrement que simplement, il a cru que Dieu c'était une mauvaise babysitter. Pourquoi ? Parce qu'il vient quand même de dévoiler qui c'était Dieu. Pendant 10 jours. Enfin, 10 jours. Pendant 10 makot. Et tu comprends bien que ça me paraît un peu juste qu'au bout de 3 jours, surtout qu'il ne s'est rien passé de mal avec les Bnei Israël. Donc pourquoi est-ce que tout d'un coup il penserait que, allez, finalement Dieu il a dit c'est une blague. Et là, il va se passer autre chose. Vaychazek Hashem et lev paro, dans la source numéro 6. Vaychazek Hashem et lev paro, melech Mitzrayim. Vayirdof achare bene Israël. Ou bene Israël yotzim beyad rama. Vayirdefu Mitzrayim achareyem. Vayasigu otam chonim al hayam. Aha. Kol sus. רכב פרו ופרשיו וחילו על פי החירות לפני בעל צפון. Donc, les Bnei Israël sont devant la mer et Pharaon arrive. Ou Paro écrive. Mais ou Paro écrive, ça veut dire écrive. Littéralement, il s'est approché. Et au moment où il s'approche, les Bnei Israël le voient. Bon, petite question mathématique. Il est combien Pharaon? Combien?
600.
Il y a 600 chars. 600 chars. Alors disons qu'ils sont 2, voire 3 par char. Un conducteur et 2 combattants, disons. Alors ça fait déjà presque 2000 personnes. Disons qu'il y avait au moins le double de fantassins. C'est quoi? Disons 10 000. 10 000 hommes! Et nous on est combien? 600 000.
2-3 millions.
Ouais, si tu comptes les femmes et les enfants, mais tu sais quoi? Hommes en âge de se battre. 600 000. Si tu me dis que ce n'est que un cinquième qui a pris les armes, ça fait quand même 120 000 personnes. Pour battre ? Alors oui, les soldats égyptiens sont plus entraînés. Hein ? Mais nous aussi. On a 120 000 personnes qui sont armées. Alors je dis, même si les Égyptiens sont de meilleurs soldats que nous.
Plus de force, qu'ils étaient fatigués.
Qui?
De l'esclavage.
Non, ça fait soit 6 mois, soit 1 an et demi qu'ils ne sont plus esclaves.
Mais c'est...
Ils sont plus fatigués. Bah, ouais.
Ils ont toujours un tempérament, peut-être.
Ah, tu dis, ils ont toujours un tempérament d'esclaves, effectivement. C'est-à-dire qu'évidemment qu'au niveau du rapport de force, on doit les écraser. Mais un, il y a la notion de l'esclavage qui a fait que...
Affaibli.
Mais pas forcément, voilà. Moralement, je vais vous donner un chiffre ahurissant que j'ai donné la semaine dernière quand j'étais point ici avec vous. Un chiffre ahurissant, mais malheureusement terriblement vrai. Ont été tués à Auschwitz près d'1 100 000 personnes. Mais Auschwitz, c'était vraiment une usine de la mort. Très organisée, très grande. À Treblinka,
900 000.
Ont été tués, combien tu dis ?
900 000.
900 000, près de 900 000. Marloquet, est-ce que c'est 870 000, 880 000 ou 950 000 ? C'est trop de toute façon.
Ça fait 2 millions déjà.
Non, t'as raison, je ne suis pas en train de faire le calcul en tout. Je dis juste que le camp de Auschwitz a marché pendant... Enfin, Birkenau a marché pendant 4 ans. Et a tué 1 100 000 personnes. Le camp de Treblinka, qui a tué pratiquement autant de monde... a marché, non, 13 mois. C'est un camp de la mort. Maintenant, le chiffre que je vous donnais qui est ahurissant, ce n'est pas celui-là.
20 000 par jour.
Ça fait à peu près une cadence de 20 000 par jour, mais ce n'est pas non plus ça qui m'intéresse. Le chiffre ahurissant, il est que les convois arrivent au camp et sont directement emmenés à la chambre à gaz. Un convoi, ça débarque entre 4 et 5 000 voyageurs. Donc, à la fois, arrivent au camp 4 à 5 000 juifs. À qui on a fait des mauvais traitements, à qui ils ont passé du temps dans le ghetto. Tout à fait, ils ne sont pas dans les meilleures conditions possibles. Mais ils sont entre 4 et 5 000. À Treblinka, il y avait 22 SS. Et une centaine de gardes ukrainiens. Vous comprenez ce que je veux dire ? 22 SS. 5 000 personnes qui arrivaient à chaque fois. Quand tu leur sautes pas tous dessus et tu prends le contrôle. Alors oui, il y a des mitrailleuses, il y a des trucs, il y a des machins. Une révolte, il y en a 1000 qui vont mourir. Mais au final, on va gagner. Alors tu dis, un, ils ne savaient pas exactement ce qui allait se passer, donc ils n'avaient pas, nous on connaît le film, c'est facile. Deux, ils avaient peut-être peur pour leur famille, ainsi de suite. Kol zenachon. Trois, ils avaient surtout réussi ce qu'on appelle le processus de déshumanisation, où les gens n'ont plus envie de se battre. Sauf que ici, c'est pas le cas. Il y a tout ce qu'on vient de dire, mais il y a aussi autre chose. Parce que Uparo, il crive. Il nous dit la Torah, Vaïssou bene Israël et enehem, veine mitzraim nosea achareem, vaïreou meod, vaïtsakou bene Israël et Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire, Vaïssou et enehem? Ouais. La sept enehem batanar, c'est lever les yeux vers où? Vers le ciel. Et tout d'un coup, ils ont vu. Mitzrayim Noser. Alors je fais une petite pause pour savoir ce qu'ils ont vu. Vous vous rappelez de nos quatre groupes du peuple juif? Ouais. Ben, on les retrouve ici. Dans la source numéro 8, il y a le Talmud de Jérusalem qui nous dit un midrash que vous connaissez, qu'au moment où on a vu les Égyptiens arriver, Arba Kitim Naasu Alayam. On s'est séparés en quatre groupes. Ben voilà, on va retrouver nos groupes. Il y en a qui ont dit Nipol Layam. Ça veut dire, on n'en peut plus, suicide collectif. Il y en a qui ont dit, Narzor le Mitzrayim, préparez tous des drapeaux blancs, on dit que c'était une blague, et on rentre. Troisième, on dit, on va les éclater, préparez toutes les armes, mise d'art, vérification des armes dans 10 minutes. Il y en a qui ont dit, allez, on fait une grande chaîne de Tehilim, c'est parti. C'est les quatre groupes. C'est exactement ce qu'on retrouve du début de la paracha. Mais pourquoi ils ont eu peur? Et ils ont eu peur tout simplement parce que lorsqu'arrive Pharaon, il y a marqué Uparo, il crive. Et bien que ça veuille dire au niveau littéral, il s'est rapproché, on ne peut pas ne pas entendre la notion de Korban. La crive, Korban. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vaïssou ben Israël et Enehem. Ils ont levé les yeux vers le ciel. Dit le Midrash, ils ont vu quoi? Ils ont vu Mitzrayim Noser. Ils n'ont pas vu un Mitzrim Nosim. Mitzrayim au singulier. C'est-à-dire qu'ils sont vus vers le ciel, et ils ont vu l'ange de l'Égypte, qui représente l'idéal de l'Égypte dans les mondes supérieurs, rentrer dans le Bet Din Shel Mala. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Enfin, qu'est-ce qu'il a dit, ce Mitzrayim? Ce qu'on appelle dans le Zohar, Mitzrayim Saba. Le grand-père égyptien, l'Égypte, ben ils l'ont vu rentrer dans le trône céleste en disant « Excusez-moi, je demande une audience. La parole est à l'ange de l'Égypte. » « Oui, alors, excusez-moi, monsieur le patron, les Égyptiens sont des pourris, je dois bien l'admettre. Hein, je n'ai pas essayé de leur chercher d'excuses, idolâtres, meurtriers et autres voleurs. » Certes, mes descendants, c'est pas folie. Aval, les Hébreux, c'est pas folichon non plus. Eux aussi font d'idolâtrie, eux aussi s'entretuent, eux aussi volent. Bah, voilà. Là, je vais dire tout simplement, Alalum ovde avodazara, ve Alalum ovde avodazara. Eux, ils servent. servent Apis, Osiris, Ra, Anubis, eux, ils ont un fil rouge autour du poignet. Je plaisante. Le fil rouge n'est pas de la
Avodah Zarah. Le Rambam, oui.
Le fil rouge ?
Oui.
Pourquoi ? Si tu veux annoncer à tout le monde.
C'est marqué les signes.
C'est Mishum Darkhe Aemori. Ça fait partie des signes d'idolâtrie des Émoréens.
Et dire également des couleurs fétiches ou je sais pas quoi.
Non, là c'est pas fétiche. Oui. Là c'est de
les
dire.
Fétiche,
ouais. Alors si c'est un signe fétiche, c'est ce qu'on appelle Darkhe Aemori. C'est une des styles d'idolâtrie de l'époque. Et donc c'est complètement interdit.
Oui.
Sauf que je suis persuadé que c'est pas pour ça que les Juifs mettent le fil rouge. Il n'y a que une raison pour laquelle Zemoutar. Il nous dira la Gemara que c'est l'homme Ishum d'Akhe et Mori si on fait comme ça. Dit la Gemara, on a le droit de peindre les racines d'un arbre en rouge si cet arbre est malade et qu'on veut indiquer à tout le monde quel est l'arbre pour lequel il faut prier. À ce moment-là, pour que les gens ne le ratent pas, et bien on a le droit de le peindre en rouge. Donc, il est évident pour moi que ceux qui mettent un fil rouge, c'est parce qu'ils veulent annoncer à tout le monde qu'ils sont malades et que les gens doivent prier pour eux.
Non, c'est pas ça.
Ah, c'est pas ça ?
Non, ça n'a rien à voir, c'est d'avoir des
choses... C'est bizarre.
Non, c'est une superstition, je crois.
Moi, je ne peux pas croire que les Juifs soient à ce point tombés dans l'idolâtrie, c'est pas possible.
Pour la même raison qu'on met des pièces d'or autour du premier-né, au moment...
Ah, mais je la connaissais pas, ça le dire. Vas-y.
Des bijoux.
Et pourquoi faire ?
C'est pour le Aïnara, quelque part. C'est pour fixer pas l'enfant, mais les bijoux qui sont à côté.
Ah, pshhh.
C'est ce qu'on dit.
C'est beau, c'est beau. Écoute, hein, qu'est-ce que je te dis ? On est bon, hein. Quand je me suis marié, je suis arrivé juste avant d'arriver sous la choupa. Donc je m'étais battu et j'avais réussi à faire accepter à ma belle famille que ce soit mes parents qui m'amènent sous la choupa et pas les deux papas le khatan et les deux mamans la kala. Donc ma mère arrive, machin, et elle me glisse dans ma poche un red bedder.
Hein ?
Pourquoi ? Ils n'ont pas compris.
Oh,
un fil rouge !
Ah, ouais, ben bon.
Tu vois ? Les vrais, ils comprennent. Je lui ai dit, mais maman, suivez ! Vas-y, t'inquiète pas. Je lui ai dit, mais il y a un problème à la rique d'avoir des choses dans les poches quand tu viens à la choupa. Arrête de m'emmerder. Nono. Alors, je l'ai mis dans... Je ne l'ai pas montré, mais... Quand je suis arrivé, je l'ai donné au témoin. Ça ? Bekitso, en mala asot. Maintenant, c'est enregistré, en plus, elle va le savoir.
Elle voit les cours.
C'est ma plus grande follower. Il va avoir. On coupera au montage. Bekitso, alalu ovde avodah zarah, ve alalu ovde avodah zarah. Donc le tsar de l'Égypte, il dit Madoua ata me'abed elu mipene elu. Pourquoi est-ce que tu choisis ce camp-là ? Ils sont pas meilleurs. Et ça a fait peur à tout le monde. Parce que Pharaon n'est pas du tout incohérent. Pharaon poursuit les Bnei Israël au bout de 3 jours, mais pourquoi ? Eh bien parce que Pharaon, qui est un Talmid Chacham Gadol, a lu la lettre 555 du Rav Kook. Bien sûr. Et il n'y a pas ici d'anachronisme. Et le Rav Kook n'était pas tunisien non plus. Et pourtant, dans sa lettre 555, le Rav Kook nous explique dans la source numéro 9 qu'il y a au sein du peuple juif 2 dimensions de sainteté. La sainteté du peuple juif, c'est 2 dimensions différentes. Yeda, Adrat Geono, il répond à un homme qui s'appelle Rabbi Yaakov Ritbaz, qui était en train de lui expliquer qu'il fallait 3 fois par jour prier pour que les chilonim disparaissent. Pour lui, Birkat Aminim, c'était contre les chilonim. Et donc le Rav Kook lui explique que non. Et il lui dit la chose suivante. Yeda Adrat Geono. Sheshne dvarim ikarim yeshnam shem yachad bonim kdushat Israël veit kashrut haeloit ima. Voilà, 2 dimensions dans la sainteté qui lie Israël à Dieu. Aechad hu sekula. Kelomar teva akedusha shebenishmat Israël mirushat avot. La première dimension de Kedusha, elle s'appelle la Segula. Et c'est quoi cette Segula ? c'est t'es juif, t'es kadosh. Lama, kacha. T'as reçu ça de Avraham,
Yitzhak
et
Yaakov.
Et voilà. Et il y a une deuxième dimension qui s'appelle la Bechira. Comme son nom l'indique, c'est le choix. C'est le choix des actions que je fais. Les bonnes actions que je vais faire, ça dévoile également une Kedusha. Donc il y a deux Kedushot. Kedushat à Segula et Kedushat à Bechira. Une Kedusha intrinsèque qui te vient de ton héritage de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et une Kedusha qui est directement liée à tes actions, qui dépend de ce que tu fais.
Le libre arbitre.
Le libre arbitre. Le Rafouk dira évidemment que la Segula est bien plus grande et profonde que la Bechira. Cependant, Dieu a prêté serment au monde que la Segula ne pourrait se dévoiler que par le biais de la Bechira. En d'autres termes, t'es juif, t'es kadosh. Seulement si tu te comportes comme un pourri, eh bien cette kedusha, alors la kedusha des mitzvot, ben tu l'as pas, et la kedusha intrinsèque, tu l'as, mais elle se dévoile pas. Si tu es juif et tu fais ce qu'il faut, non seulement tu reçois la kedusha liée à tes actions, mais en plus tu dévoiles la kedusha intérieure qui est la tienne. Ok ? Durant les 10 plaies, ce qui a été mis en surbrillance, c'est quelle kedusha ? C'est celle de la Ségoula. Ils n'ont rien fait, les d'Israël, pendant les 10 plaies. On a montré leur séparation et leur lien à la sainteté sans qu'eux n'aient fait quoi que ce soit. C'est kedusha ta Ségoula. Alors que 3 jours plus tard, parce que, enfin, on dit ok, très bien. De toute façon, je ne peux pas les juger sur leurs actions en Égypte. Pourquoi ? Parce qu'ils sont esclaves. Un esclave, il est libre, il n'est pas libre de ses choix. Donc, 3 jours après la libération, pour qu'il y ait une chazaka, maintenant je peux poser la question : est-ce qu'ils méritent ? C'est-à-dire, les diplômes ont vérifié la Segula. Moi, je veux vérifier maintenant la Bechira. Est-ce qu'ils méritent dans leurs actions au quotidien de dévoiler à Kadosh Baruch Hu, de passer devant. Et c'est pour ça qu'il les poursuit. Et à ce moment-là, les Bnei Israël voient donc cet ange de l'Égypte qui pose cette question, est-ce qu'il mérite plus que nous ? Et là, c'est le drame. À nos 4 groupes, t'imagines, ils sont en stress complet. Il y a déjà une grande partie, un quart, qui s'est avancé près de la falaise et qui a 2 pas de sauter. T'as un autre truc qui a rassemblé tous les draps qu'ils ont pu trouver pour faire une banderole blanche avec marqué « On vous aime l'Égypte, frappez-nous, fouettez-nous, on veut revenir !» Il y en a d'autres qui ont déjà mis les chargeurs dans les armes, et il y en a qui en sont déjà à la 3e session de Tehilim. À ce moment-là, il faut que Moshe intervienne. « Va yomer Moshe Elaham » 7. « Va yomer Moshe Elaham » Al tiraou, n'ayez pas peur. Et là, il commence à répondre à chacun. Hityatsevu, ou Reu et Yeshua Tachem. Asher Yaseh Lachem Ayom. Qu'est-ce que ça veut dire? Hityatsevu. Ah, garde à vous. Hityatsev. À qui il dit ça? À ceux qui voulaient sauter. Il a dit, hop, 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 personne ne saute. Non, toi je t'ai vu, tu sautes pas. À ceux qui voulaient repartir en Égypte, il leur dit, excusez-moi, messieurs, dames, qui asher roi reitem et mitzraim ayom, lotosifun nirotam od adolam. Vous voyez les Égyptiens là-bas? C'est la dernière journée que vous les voyez. On ne les verra plus jamais. À ceux qui voulaient se battre, il leur a dit, posez les armes. Hachem, ilachem lachem. Et à ceux qui étaient en train de crier, il leur a dit, veatem, tacharishun. Chut, taisez-vous. C'est pas le moment de prier. Ma corrèpe. Pourquoi est-ce que Moshe dit aux 4 groupes que c'est pas bien ce qu'ils font? Parce que l'enjeu ici, c'est de montrer le mérite du peuple juif. Or, les 4 groupes en question ne rajoutent aucun mérite. Ce sont 4 réactions humaines face à l'adversité. Il y en a qui sont face au défi ou à l'adversité, baissent les bras et disent, j'en peux plus, prenez-moi. Il y en a qui abandonnent le combat, qui se rendent, qui disent, c'est quoi ? C'est pas grave, on va subir. Il y en a qui disent, dans l'adversité, on va se battre. Ils sont le dos au mur, alors ils tapent un gros coup dans le mur pour avancer. Et il y en a qui se retournent vers le spirituel, parce que le matériel, le concret, est trop dur. Donc, si vous voulez, ce sont quatre réactions humaines, normales. Ça ne rajoute pas un mérite. Il y en a un qui va rajouter un mérite. Il s'appelle Nachshon ben Aminadab. Mais avant cela, il y a Moshe qui parle à Dieu. Et il leur dit, enfin, il lui dit, « Fais quelque chose !» Va yomer, source numéro 10, va yomer Hashem el Moshe, ma titzak elay, d'aber el bene Israël, ve Isaou, lama tatsoek elay. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il crie? Parce que t'es Dieu. Ken, ah ben je peux pas, je suis pieds et poings liés. Il y a l'autre là, le responsable de l'Égypte, qui a posé une très très bonne question. Je peux rien faire. Je peux rien faire pour vous. J'ai le même problème que vous. Vous, vous pouvez faire quelque chose. Rajoutez un mérite. Ça fera pencher la balance en votre faveur. Faites quelque chose. D'aber el béni Israël veïssaou. Bon, c'est sûr que Moshe, il leur a dit, et c'est sûr qu'ils ont tout de suite obéi, non? Non. Parce qu'il y a quelqu'un qui gêne, qui les empêche de faire quelque chose. C'est qui ce quelqu'un? Moshe Rabbeinu. Pourquoi il les empêche? Ben parce qu'il est là. Et donc, puisqu'il est là, ben on attend que lui, il fasse. Ah! Quand il y a le chef incontestable et incontesté qui est dans la place, ben il y a quelqu'un d'autre qui va faire. C'est le chef qui fait. Et le chef, il ne fait pas. Alors, on attend. Regardez ce que dit le Meshech Chochma dans la source numéro 11. Il dit « Nirat mefaresh » Les Juifs ont suivi Moshe comme des moutons ont suivi leur berger. Elle dit, tu peux dégager, s'il te plaît, de devant tout le monde, là? Tu les déranges. Tu les gênes. Ils s'en remettent tous à toi. Montre-leur que c'est à eux de bosser. D'abord, elle bénit Israël, et toi, tu te mets derrière. Et t'attends que ça passe. À ce moment-là, Nachshon ben Aminadab, il prend les devants. Et c'est le cinquième groupe. Il n'était certainement pas tout seul. Il représente ce cinquième groupe. Ce cinquième groupe, on l'a trouvé quelque part. Revenez à la source numéro 6. Vechazek Hashem et Lev Paro, Melech Mitzrayim, Vardof Achare Bene Israël, ou Bene Israël Yotzim Beyad Rama. La notion tout à l'heure de Ham revenait trois fois. Ici, c'est la notion de Bene Israël qui revient deux fois. Il y a ceux qui sont armés et il y a ceux-là. Yesh bene Yisrael she yotzim beyad rama. Qu'est-ce que c'est que ce yad rama? Onkelus va traduire beresh galei. Roche galouille, la tête haute. C'est Nachshon ben Aminadab qui avance la tête haute. Fier de son identité. Il n'est pas là pour se battre, il est là pour avancer. S'il faut se battre, il se battra. Mais il est là pour avancer. Et vous connaissez l'histoire de la galinette qui a avancé dans l'eau, et l'eau, l'endroit, et l'eau, elle monte, et glou, 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 et ça saute. Mais j'ai beaucoup de mal avec cette agada. Parce que Nachshon, il savait que l'eau allait s'ouvrir? Non. Donc, il savait nager ou pas? Bah, disons qu'il savait nager. Alors, s'il savait nager, il n'est pas en train de marcher comme un idiot dans la mer. Il nage. Donc, la galinette, elle a tort. 1-0 pour la pague et nénette. Mais s'il ne savait pas nager, tu crois vraiment qu'il va aller marcher dans l'eau? Il va se noyer. Il est fou.
Il a la foi.
Il a forcé la main.
Il a la foi. Et donc, tu as la foi. Donc, tu sais, pour tu es en voiture?
Non.
Tu es venu à pied?
Oui.
Oui. Tu vas donc repartir à pied, là, maintenant?
En quelque sorte.
Ok. On t'a amené, machin. Non, c'est une question extrêmement... En bus. Donc, tu vas reprendre le bus. Bien fait. Est-ce que le bus, tu peux le prendre ici, dans cette salle?
Pardon?
Tu peux le prendre ici, dans cette salle?
C'est
Il faut aller à l'arrêt du bus. Alors, je te propose quelque chose. Et foi, ce que je vais te dire est vrai. Non, c'est vraiment vrai. Ça ira beaucoup plus vite pour que tu ailles à l'arrêt de bus en sautant par cette fenêtre. Les trois étages, tu les descendras beaucoup plus vite. Je ne mens pas. Je pense pas que tu vas le faire.
On peut pas ouvrir.
Ah, tu vois que c'est ça le problème? Je suis sûr qu'on peut trouver une solution. Je pense pas que tu vas le faire, parce que si tu sais pas voler, tu vas pas sauter dans le vide.
Oui, mais si je sais nager.
Alors, c'est pour ça que j'ai demandé. C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure. Si c'est nager, il n'y a pas de raison de dire qu'il marche dans l'eau jusqu'à ce que glou glou glou. Et s'il ne sait pas nager, il ne va pas aller rentrer juste là glou glou glou. Donc pour moi, il est évident que Nachshon, je pense qu'il savait nager, mais qu'il n'avait pas prévu de le faire à la nage parce que c'est crevant. Donc quand ils ont dit Daver ben Israël veïsaou, qu'est-ce qu'il a fait Nachshon? Nachshon, c'est le chef de la tribu d'Yehuda. Il a des gens derrière lui. Alors il a dit, bon les gars, vous, groupe A, vous me rassemblez des rondins de bois. Vous, groupe B, vous prenez de la ficelle. Vous, groupe C, vous commencez à prendre des toiles. On va faire un mât, on va faire une voile et tout, machin. On fait des radeaux. Allez, c'est parti, on y va. Taber el béni Israël ve Issaou. Et finalement, Dieu, il intervient. Hein? Mais évidemment. C'est ça que veut dire le Midrash quand on dit que Nachshon, il est rentré dans l'eau. Ben non. Ça veut dire quoi cette histoire? C'est-à-dire que Dieu, il a finalement dit, ok, ils ont fait pencher la balance de leur côté. Et comme vous le savez, Maase Avot, Siman Labanim, Maase Maase Avot, Siman Labanim. Eh bien, les amis, toute cette histoire, elle va se repasser. Cette histoire de Elou, Ovdei Avodah Zara, de Elou, Ovdei Avodah Zara, nous dira la Gemara dans le traité de Sanhedrin, à la page 98, que c'est un argument qui va revenir à la fin des temps. Où les goïms viendront et diront « Alalu ma'ase yadai, ve'alalu ma'ase yadai » Donc, pourquoi tu choisis là et pas là? De quelle est cette histoire? Eh bien, cette histoire, c'est une des raisons pour laquelle Rabbi Yochanan a peur de l'époque messianique. Il dit « Je ne veux pas voir l'époque messianique. » Parce que je sais qu'à cette époque-là, il y aura ce dont parlent les gens. C'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara. La légende dont parlent les gens. C'est quoi cette légende? C'est la légende du taureau et du cheval. Quelle est cette légende? Ben, tout le monde le sait. C'est l'histoire d'un homme qui avait un champ. Et dans son champ, il y avait le taureau qui labourait le champ. Et puis un jour, le taureau est tombé. Il s'est blessé. Alors il ne peut plus labourer. À sa place, le patron du champ sort le taureau et met le cheval. Bon, c'est pas aussi bien que le taureau, mais ça fait le boulot. Et puis un jour, le taureau se remet de sa blessure. Il veut revenir. Mais le propriétaire du champ a beaucoup de mal à sortir le cheval de l'enclos. Parce qu'il s'y est habitué. Et à ce moment-là, il dit « El alalu ma'ase yadai, ve alalu ma'ase yadai ». C'est ça, c'est mes créatures, ça, c'est mes créatures. Pourquoi est-ce que je choisis une par rapport à l'autre? Nous dit Rashi que le Balabaït, Zakadosh Baruch Hu, que le champ, Zeret Israël, que le taureau, c'est Am Israël, qui a été comparé à un taureau dans les brachot de Yosef. Et que donc, finalement, il lui dit, un jour, le Am Israël a couru, il est tombé. Il s'est blessé. Et quand on est parti, Dieu n'avait quand même pas laissé le champ en friche. Il a mis le cheval, ou Mota Olam. Am Israël s'est remis et il veut rentrer travailler. Aval, le patron du champ, Dieu, a beaucoup de mal à sortir le cheval parce qu'ils se sentent chez eux. Ils te disent qu'ils sont là depuis 7 générations à Jérusalem, que c'est leur pays, qu'ils étaient là avant même que toi, tu penses revenir depuis la Pologne. Et le problème, c'est que Dieu, ben, il ne peut rien répondre à ça parce que c'est Emet. Et donc il te dit El Laluma Seyadai. Va Laluma Seyadai. Il y a encore à ce moment-là des gens qui disent on va les éclater. Il y en a qui disent on va faire des Tehilim. Il y en a qui disent bon, la paix maintenant, séparons-nous. Et il y en a qui disent bon, retournons en Amérique. Mais il y a aussi une cinquième colonne. Un cinquième groupe. Le Nachshon de maintenant. Qu'est-ce qu'il dit le Nachshon de maintenant? Il dit on va tout simplement faire pencher la balance. Comment est-ce qu'on va faire pencher la balance?
Maasim,
c'est-à-dire qu'on va mettre les tefilin? Ça va faire pencher la balance en question?
On va faire des enfants.
Alors ça peut être une solution, comme ça la balance démographique, elle va évoluer, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe là maintenant, ça y est. Les femmes juives font plus d'enfants en Israël que les Arabes. Donc la balance démographique joue en notre faveur maintenant, ça y est. Mais il y a autre chose.
On va développer.
Viens, on dit ça en langage mishnaïte. C'est marqué. Il est l'Omer. C'est exactement comme ça que c'est marqué dans la Mishnah. Si je me trompe, vous me reprenez. Marqué. Il est l'Omer. Heve mitalmidav shel Aaron. Oev shalom, verodev shalom, oev et abriot, ou mi caravan, la Torah. Encore une caravane, et encore une caravane, encore une caravane. Ou mi caravan, la Torah. C'est-à-dire que tu es en train de créer une situation de fait. Où tu dis, avalpo, yesh yehudim, nekuda. Pour que finalement la question de savoir à qui appartient la terre d'Israël ne soit plus une question. Le plan Trump, on ne va pas débattre dessus maintenant, mais les cartes qui sont proposées, elles ont suivi quoi? Est-ce qu'elles ont suivi Stam, un mec qui ne savait pas où il était, il a pris un feutre vert et il a fait une ligne, qui est devenue la ligne verte. Vous savez que c'est à cause de ça qu'elle est devenue la ligne verte. Parce que le feutre sur lequel, avec lequel a été tressée la ligne, il était vert. C'est la ligne verte. C'est pas à cause de ce qu'on dit quand on guide les touristes. Que quand tu regardes la ligne verte, tu vois que tout ce qui est côté Israël, c'est vert. Et tout ce qui est côté pas Israël, c'est tout marron, tout moche. C'est aussi une réalité, mais c'est pas la raison de la ligne verte. Mais là, c'est pas la ligne verte. Là, ça suit ce qu'on appelle Goucher Aïtiashvout. Les pôles d'habitation, les blocs d'habitation. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire si t'es là, t'es là. Si t'es pas là, t'es pas là. Et donc, faire pencher la balance de notre côté pour savoir si l'enclos il est celui du taureau ou du cheval, ben c'est pas shoot. Est-ce que là-bas, il y a un taureau ou il y a un cheval? C'est pas shoot. Et c'est la raison pour laquelle, moi je trouve ça assez bizarre, comment ça se fait que dans aucun discours, ni Arafat, ni Abou Mazen, n'ont demandé, n'ont revendiqué Tel Aviv, Herzliya, Bnei Brak. Pourquoi ils n'ont pas revendiqué toutes ces zones-là?
Il n'y a pas d'histoire.
C'est ça qui les dérange. Le peuple palestinien, il n'a pas d'histoire. C'est, tout d'un coup, c'est l'histoire qui les dérange.
La majorité des villes où dans la Torah, on parle des rêves d'Israël.
Quoi? À Bnei Brak, il y avait Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Yeshua.
Parce qu'ils ne veulent pas les juifs.
Parce que dans le Gouche d'Anne, il y a 2 millions de juifs, point. Donc il sait très bien que c'est même pas un débat. Par contre, quand il va dans la Galilée ou quand il va dans le sud de la Judée, où il n'y a pas de juifs, pas beaucoup, il te dit, c'est Palestine. Mais si tout d'un coup il y a des juifs, ben, c'est plus une question.
Jérusalem, mais beaucoup.
Des juifs, pas au prochain.
Donc c'est pas...
Oui, mais Jérusalem, c'est pas... C'est, non, mais c'est un joker, Jérusalem. Jérusalem, c'est le joker parce que c'est Jérusalem. C'est-à-dire, même s'il y avait zéro arabe à Jérusalem, il faudrait Jérusalem quand même. Parce que ça fait le joker, ça fait le buzz. Mais tu regardes le reste des choses qu'ils demandent, c'est les endroits où il n'y a pas de juifs. En d'autres termes, il faut créer une situation de fait. Faire en sorte que la balance, ben, elle soit de notre côté. Il faut être Narshonim. Il faut être ceux qui sont comme Narshon ben Aminadar et qui avancent. Pas comme le premier groupe qui a dit on va sauter dans l'eau parce qu'on veut se suicider. Narshon ne veut pas se suicider. Il avance parce que Dieu il a dit avance. Donc il avance. Il avance pas les yeux fermés, il fait des radeaux. De la même façon, dans notre génération, il faut avancer également. Il faut avancer. D'abord, ben Israël, ça. Et une fois qu'on fait ça, alors la balance penche de facto de notre côté. Et c'est la raison pour laquelle la paracha de Béchalar, elle n'est pas du tout une redondance par rapport à Bo et à Vaera. Elle vient compléter l'argumentaire à Pharaon. Gam au niveau de la Bechira, Am Israël, est celui qui maintenant va avancer pour dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans le monde. Comme on a dit tout à l'heure, Maaseh Avot, Siman, Labanim.